Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Un événement aujourd'hui avec les confidences croisées de deux grands auteurs dans la ville de leur enfance, un livre sensible sur la mémoire et les limites de l'amour et un roman sur la folie qui peut tous nous concerner. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Nous irons à Nice, ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis cet été, avec deux grandes personnalités. Pour la première fois, le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Le Clézio et l'auteur à succès international Marc Lévy évoquent leurs souvenirs personnels à Nice, souvenirs culinaires en particulier. Nous serons en pleine ville et sur le toit d'un grand hôtel pour cette séquence inédite et exclusive. Agnès de Sarthe revient avec un nouveau livre qui raconte une histoire sensible qui convoque la mémoire et qui porte une réflexion sur la basse de nos vies et la quête d'une vie amoureuse réussie, tributaire de la mémoire. Un livre en lice pour le prix Goncourt. Et puis nous recevrons Vinciane Meuchler, auteure franco-suisse qui vit en Belgique. Elle publie un roman choc sur la folie. Un livre inspiré, parfaitement édité, dans une formule étonnante, en symbiose avec son sujet. Un coup de cœur de notre rédaction. Et les libraires sont avec nous, comme chaque semaine, ils interviendront tout au long de cette émission. En Belgique, c'est Déborah Damblon qui est avec nous, en public, de la librairie Le Public, c'est presque ça. Le Public par filigrane à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Mais je vais bien, je vais bien.
Bon, on vous retrouve dans la version télé de la librairie francophone,
oui.
Première de la nouvelle saison avec Louis-Philippe d'Alembert et Moussé Hakim de Zebda, entre autres. Diffusion en Suisse, France et Belgique ce dimanche à midi sur TV5 Monde, puis sur les 9 réseaux internationaux de la chaîne. Au Québec, on retrouve Josiane Nétourneau de la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous aussi, vous êtes dans la version télé?
Ben oui, mais je suis là.
Qui est diffusé au Canada sur ICR TV de Radio-Canada.
Oui, exactement.
En Suisse, c'est Claire Renaud qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Atmosphère à Genève. Quelle est l'atmosphère en ce moment?
C'est magnifique, l'été indien ici.
L'été indien. J'espère que ça va continuer. On commence avec une anecdote de libraire, Claire. C'est votre tour cette semaine.
Oui, exactement. Alors, vous savez, l'autre jour, il y a un jeune garçon qui est entré dans ma librairie et qui m'a demandé si j'avais un rayon sport. Et j'ai dit, hélas, non, déjà ma librairie est minuscule, je ne peux pas avoir un rayon sport. Mais est-ce que je peux vous aider? Vous cherchez un ouvrage? Et il me dit oui, puis il regarde un peu comme ça son papier, il me dit, je cherche la guerre des Gaules. Et je lui dis, bon, moi je tenais un seul guerre des Gaules, c'est celui de Jules César. Mais je voyais pas le rapport avec le rayon sport. Et il me dit, oui, je crois que c'est ça, et il me tend son papier, il avait écrit la guerre des Gaules comme les Gaules de foot.
Ah oui, d'accord. Il avait quel âge?
Oh, il était chou, il avait 16 ans max, à mon avis.
Quel est son nom? Donnez-le à l'antenne.
Je ne sais même pas. Il était très mignon.
Protégeons les mineurs, allez, pas
exactement.
De nom.
Exactement.
Pas de nom. Bon, merci pour cette histoire. Vous aimez Leonard Cohen?
J'adore.
Eh ben, écoutez, c'est pour vous.
We met when we were almost young. Deep in the green light. As we went kneeling through the dark, oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Et bonjour Vinciane Meuchler.
Bonjour Emmanuel.
Sur cette musique de Leonard Cohen que vous citez dans votre livre Alice et les autres, paru chez Mercure de France. Nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions presque jeunes. Tu t'es agrippé à moi comme si j'étais un crucifix pendant qu'on traversait à genoux l'obscurité. c'est une partie de la traduction de ce titre. Ça reflète très bien votre livre. C'est une histoire choc, votre roman, Vassiane, à tous les sens. Par sa forme, par son récit, par son réalisme, vous racontez une folie, une pathologie nommée TDI, trouble dissociatif de l'identité. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est comment quelqu'un met un mécanisme en place pour finalement survivre à un traumatisme. Donc c'est une dissociation, c'est-à-dire que on se dissocie en plusieurs personnes.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Alors ça existe effectivement, le diagnostic en Amérique du Nord notamment, ailleurs il y a controverse, et on le voit d'ailleurs dans votre livre avec le docteur C, dont le diagnostic est remis en question.
C'est une pathologie qui est très très mal connue et qui justement divise en fait la psychiatrie. Parce qu'on a souvent confondu avec la psychose, la schizophrénie, alors qu'en fait c'est une névrose, puisque la personne, quand elle n'est pas dissociée, a tout à fait une structure normale, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et du coup, le psychiatre, en fait, dans le roman, j'ai voulu qu'il parle un petit peu, donc qu'il explique aussi ce que c'était le trouble dissociatif de l'identité, et aussi montrer de son ambivalence, parce que lui, il s'occupe donc de Madame Morin depuis qu'elle est jeune, donc Alice. Et en fait, lui, il est très touché par cette jeune fille, par cette femme qui suit tout au long de sa vie. Elle est hospitalisée. Et à la fois, ben, il a un côté, il est un peu orgueilleux, donc c'est un peu son cas clinique. Donc du coup, il fait un peu tout pour, il fait des conférences, il veut la sauver aussi.
Donc. Ouais. Alice, effectivement, c'est votre personnage multiple. Elle raconte son histoire. On ne peut pas trop en dire, hein, Vinciane, parce que la construction de votre livre est parfaite. Et on apprend les choses au fur et à mesure, comme ça, avec des surprises. Donc on ne va pas gâcher le plaisir de lecture à ceux qui nous écoutent. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a des crises au cours desquelles elle change d'identité, et vous travaillez d'ailleurs dans un grand hôpital psychiatrique à Bruxelles. Et il y a des passages terribles chez ces personnes-là, notamment un passage à la piscine. Ça, vous pouvez le raconter peut-être.
Elle est tombée amoureuse de Guy, qui est son mari. Et en fait, en ne sachant pas, lui, qui partageait sa femme avec plusieurs autres personnalités. Et un jour, il est à la piscine avec elle. Et en fait, quand les personnes se dissocient, on dit qu'ils passent d'un personnage à un autre, qui sont ce qu'on appelle des alters. Et tout à coup, effectivement, il y a quelque chose qui fait dans son attitude, qui lui fait rappeler des souvenirs traumatiques. Et tout à coup, elle switch, on dit qu'elle change de personnalité, et elle devient tout à fait différente. Et lui est évidemment très surpris de...
Oui, elle se fige comme ça dans l'eau, alors qu'il l'entoure en fait, devant tout le monde, devant les maîtres nageurs. Et elle commence à lui parler avec une autre voix, et elle lui dit « C'est quoi ces manières de me tripoter dans l'eau, salopard ?» Et lui ne comprend pas ce qui se passe. Personne ne comprend.
Non.
Alors il va tout faire pour l'aider, pour surmonter comme ça ses troubles. Le problème, c'est qu'il ne réalise pas la gravité de la situation. On peut même se poser la question, et les médecins se posent la question sur lui, parce que comment a-t-il fait pour être aussi ingénu, pas un soupçon comme ça, malgré des mois de vie commune ?
C'est-à-dire que je pense que lui, il est complètement amoureux d'elle, et que la personne peut fonctionner pendant des années sans qu'il se passe rien. Donc il est tombé aussi sur les années où ça s'est bien passé. À un moment, elle s'est absentée, il n'a pas eu de nouvelles d'elle, elle était hospitalisée. Et à travers ce personnage, c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire que très souvent, le trouble dissociatif de l'identité est représenté par des serial killers, par des psychopathes, et là vraiment, j'avais envie de montrer, redonner une humanité finalement aux êtres qui sont brisés, puisque c'est le cas. Et non de parler d'une pathologie qui est spectaculaire, parce que c'est vrai, on est dans la grande folie, c'est quelque chose de... Voilà, je l'ai rencontré à travers ma pratique en psychiatrie, et c'est vrai que c'est quelque chose de... On a la peine à y croire, tellement...
Mais alors, ceux qui entourent ces personnes-là, un compagnon, par exemple, ou une compagne, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a des relations que l'on souhaite coûte que coûte, c'est un peu ça, en se voilant la face, quitte à risquer sa vie, parce que ça peut aller jusque-là.
Il y a un moment donné, le psychiatre, dans le livre, il dit à un moment donné, mais finalement, qui est le plus fou des deux ?
Mais oui.
Entre elle et lui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il subisse tout ça et qu'il, voilà.
On a beaucoup de peine pour lui, en tout cas. C'est vrai que, non, mais on s'attache vraiment à lui. On va voir du côté des libraires, s'ils sont d'accord. Avec la Belgique et le Canada, on commence par qui ?
Bon, non, comme...
Ah si, Belgique ou Canada ?
Ouais, la Belgique.
Allez, bah oui, normal. Vous êtes une auteure belge, hein. Vous êtes considérée comme une auteure belge. Allez, Déborah Damblon, à Bruxelles.
Alors, j'ai trouvé que rien n'était vraiment fluide dans ce roman. Ni le récit, ni la narration, parce qu'ils sont saccadés, ils sont morcelés. Et justement, en fait, c'est ça tout leur intérêt. Parce que ça nous bouscule, ça nous met constamment à un endroit où on n'a pas l'habitude de se trouver et où on n'a pas forcément envie de se trouver. Et tout en subtilité, vous arrivez à mettre en scène un réel mouvant, déstabilisant, mais qui n'empêche pas la tendresse et la douceur et qui permet d'aborder la maladie mentale de l'intérieur et puis qui sait peut-être d'apprivoiser cette notion.
Mmh.
Allez, Josiane Tourneau, au Québec, êtes-vous d'accord?
Ben, en fait, j'ai trouvé que ce roman-là, c'était une véritable composition chorale aux accents de tragédie. Et ça m'a plongée dans un état de compassion absolue dès les premières pages, car malgré la fascination et le suspense qui, quelque part, se crée au fil de la lecture, c'est avant tout un drame humain, un casse-tête absolument terrible que vous construisez devant nos yeux, pièce par pièce. Tout ça, je trouve, au niveau de la construction, c'est absolument réussi. J'ai un seul petit bémol, et c'est la fin.
La fin? Pourquoi?
Ah, il m'a brisé le cœur.
Ah oui, c'est ça. On va pas raconter la fin.
Non, c'est ça, je veux pas y aller trop loin là-dedans. Il faut pas, mais bon, voilà, ça m'a détruit.
Bon, vous avez séduit nos libraires, Vinciane Mochler. Si vous nous rejoignez, on parle de son livre « Alice et les autres » paru chez Mercure de France. Alice change de personnalité. Elle endosse la voix et le comportement d'autres personnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des personnes qu'elle a connues ou qu'elle s'invente. Elle dialogue avec elles. C'est un film d'horreur, hein. Vraiment, à un moment, on se dit... Non, mais c'est vrai, dans les pires films d'horreur, on a ça. Et elle les utilise comme des garde-fous qui la protègent d'un traumatisme trop violent. Et vous écrivez, se dissocier, c'est perdre conscience en mettant en place des mécanismes de protection suite à un vécu traumatique. Quel genre de vécu traumatique?
Alors, très souvent, les personnes qui sont atteintes du trouble dissociatif de l'identité ont subi des traumatismes, des incestes avant l'âge de 6 ans. En fait, des abus sexuels avant l'âge de 6 ans. Mais on retrouve aussi ça chez par exemple, les soldats qui reviennent de guerre, donc qui ont un choc post-traumatique. C'est aussi quelque chose qu'on peut trouver. Mmh. Mais en général, c'est vrai que c'est plutôt des cas...
Liés à l'enfance, la malnutrition aussi, ça peut déclencher ça.
Oui.
La violence physique, même si elle n'est pas sexuelle. Donc ça peut arriver à tout le monde, en fait. Ce n'est pas une pathologie génétique.
Ah non, non, pas du tout.
Il y a un déclencheur.
Oui, bien sûr, c'est un trauma. Et chacun va trouver des défenses. C'est ça qui est magnifique chez l'humain. C'est que chacun va trouver ses défenses personnelles, comment lutter contre ça. Et quelque part, alors c'est pas de la résilience, mais c'est un côté de survie. Et c'est énormément de souffrance qu'on ne montre pas souvent justement dans les films.
Et puis il y a le manque d'une mère aussi, partie trop tôt. Ça aussi, vous le décrivez. C'est un facteur aggravant, ça, l'abandon maternel, Vinciane Mochler.
Alors oui, je pense que là, elle s'est retrouvée un petit peu coincée entre un grand-père et une grand-mère qui étaient très malveillants et qui étaient très carencés. Et donc évidemment, cette maman qui n'était pas là, qui elle-même n'allait pas bien non plus. Donc voilà, effectivement, elle
ça
le dit
rajoute,
tout le temps,
ouais.
En fait. Que ça, voilà, il lui a manqué cette chaleur maternelle.
Bon, vous montrez en tout cas avec beaucoup de subtilité la folie. Folie qui est un sujet souvent tabou, hein, parce que devenir fou, c'est possible pour chacun d'entre nous. Quelles sont les sécurités, vous qui travaillez dans un hôpital psychiatrique, les sécurités, les vrais garde-fous auxquels on a besoin pour rester équilibré dans la vie?
Alors elle a Guy qui la soutient, qui est là, quoi, qui lui donne cette liberté, il lui donne la possibilité d'être libre, d'être une maman, d'être parce qu'il est là, il soutient. C'est vrai que ça c'est
donc
capital.
Un compagnon, une compagne,
ça
aide.
Si on est seul et très souvent c'est le cas quand même quand on voit la structure familiale ou la structure de la personne, il y a personne dans l'entourage.
Ouais. Donc l'entourage compte beaucoup.
Ben oui.
Bon, merci beaucoup Vinciane Mochler.
Merci
d'être venu pour la première fois dans la librairie francophone. Ouais. Alice et les autres est paru chez Mercure de France. Lisez ce livre, c'est malheureusement assez rare pour le souligner. La construction, l'écriture et la façon magistrale dont il est édité font toute la force de ce roman, qui est un roman coup de poing. Bravo Vinciane.
Merci
à vous.
La librairie francophone.
Allez, les coups de cœur et les coups de gueule des libraires, tout de suite, voilà, comme ça. Avec un coup de cœur en Suisse, Claire Renaud.
Oui, j'ai un coup de cœur pour Anne Brécard, La patience du serpent, qui a été publiée aux éditions Zoé. Alors, avec sa langue toujours limpide et ciselée, Anne Brécard nous emmène cette fois-ci au Mexique, au bord du Pacifique, en compagnie d'une famille qui a choisi la vie nomade. Le climat va très vite devenir toxique grâce à une rencontre étrange et envoûtante qui va un peu bouleverser l'équilibre de cette famille. Mmh. Ce qui m'a touchée, c'est que tous ces personnages rêvent d'en ailleurs et ils sont décalés. Et j'ai trouvé que c'était un très beau roman, sensuel et prenant.
Bien, La patience du serpent d'Anne Brécard aux éditions Zoé. Merci beaucoup Claire. Un coup de gueule au Canada, Josiane Nettourneau.
Oui, parce que bon, moi j'ai un petit problème avec les médias sociaux au départ, mais puisqu'ils
Encore?
Sont là pour rester, oh oui, moi je suis un peu saturée. Il y a des moments où j'observe ça, puis je trouve qu'au niveau de la façon dont on parle des livres sur les médias sociaux, on est un peu paresseux. En fait, il y a certains médias où on poste une photo et c'est tout. En fait, on ne dit rien d'autre. On fait juste mettre en scène un livre de manière un peu esthétique. Et je pense qu'on est un peu paresseux parfois. Je pense qu'avec la lecture, au moins, on pourrait faire l'effort de mettre un petit peu plus de chair dans nous, dans la façon dont on présente les livres dans les médias sociaux. Et c'est un peu le constat que je fais. Même si des belles photos, c'est toujours agréable à regarder.
Et je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram, hein, si vous voulez du contenu. Emmanuel Kéran.
J'ai ni Twitter, ni Facebook, par contre.
Parfois, je pose des photos de livres sur la plage. Bonjour Agnès de Sarthe.
Bonjour Emmanuel.
Ça va bien? Vous êtes sur Instagram, vous, par exemple?
Pas du tout.
J'ai une photo de vous sur la plage. Enfin, avec votre livre.
Ah.
Je vais la poster, tiens. Allez, bon, on vous retrouve tout à l'heure, Agnès. Hein,
ok.
À tout à l'heure. À suivre notre événement de la semaine avec Jean-Marie-Gustave Leclésio et Marc Lévy à Nice. Une séquence grand format exclusive à l'occasion du classement de la ville française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant cela, voici la chanteuse franco-brésilienne Yindi dans la librairie francophone. C'était Yindi avec Noir Brésil.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Direction la Côte d'Azur, un voyage que nous vous proposons réalisé dans le cadre du Festival du Livre de Nice qui s'est déroulé fin septembre. La ville a récemment été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la première fois, l'écrivain à succès Marc Lévy se confie sur son enfance à Nice et aux alentours. Un entretien croisé avec le prix Nobel de littérature niçois Jean-Marie-Gustave Leclésio. Deux univers diamétralement opposés, mais un point commun que nous avons décidé de vous faire découvrir. C'est inédit et exclusif pour la librairie francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
On sait beaucoup de choses sur vous, notamment votre formidable succès en France et aux États-Unis, traduit partout dans le monde, votre vie aux USA aussi. Ce que l'on sait moins, c'est que vous avez vécu ici, à Nice. À quelle période ?
J'ai grandi en fait à Beaulieu pendant toute la période de mon école primaire. Mais c'est peut-être le seul endroit du monde où j'ai l'impression d'avoir planté des racines. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les années de l'enfance ou de cette première enfance sont assez formatrices ou constitutrice de votre identité. Quand j'interroge des copains ou des amis sur leur passé, il est vrai que ces années, on va dire entre 6 et 11 ans, 6, 12 ans, 13 ans, sont les années d'ancrage. Hein.
Alors Nice a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis cet été. C'est une ville qui a un paysage, une architecture qui a pu vous inspirer quand vous avez écrit vos romans, vous ?
Je ne suis pas peintre. J'écris.
Il y a des décors quand même.
Voilà. Alors, par exemple, dans mon premier roman, la maison de Carmel où a grandi le héros est en fait la maison où j'ai grandi dans la baie de Villefranche, à moindre coût, puisque ça s'est fait avec un juste, non pas des coups de pioche, mais des coups de stylo. J'ai déraciné de Villefranche et que j'ai réimplanté au bord de l'océan à Carmel. Il y a un restaurant que j'aime beaucoup à Nice, dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes romans, qui est la petite maison. Et puis, bien sûr, il y a des lieux comme ça qui sont transposés, mais par rapport à je dirais pas dans leur description purement géographique ou physique, mais plus au travers de ce que j'ai pu y vivre.
Alors, le restaurant, justement, parlons d'art culinaire, Marc Lévy, puisque l'art culinaire, ça ancre aussi notre mémoire, ça nous enracine quelque part. Il y a des mets dont vous vous souvenez, vous, Marc ?
Quand j'étais gamin, on allait au marché aux fleurs, aux courses à Léa, et puis ensuite, on se promenait dans les ruelles du Vieux-Nice, et là, il y avait quelque chose qui était, pour nous, c'était Nice, c'était la soca. S'acheter une part de soca, c'était la fête à l'époque. Les fast-food n'existaient pas. Dans les saveurs de l'enfance, il y avait la pissaladière, ouais. Évidemment.
Racontez, qu'est-ce que c'est que la soca et la pissaladière ?
Bah, la pissaladière, en fait, c'est une pâte hein, assez fine, un peu sablée ou pas, selon la façon dont on la fait, mais surtout avec dessus une confiture d'oignon,
ouais,
des petites olives noires et surtout les anchois niçois qui ont un goût absolument extraordinaire.
Ouais.
Et c'était 100 fois meilleur qu'une pizza. Je dis ça avec un esprit très partisan et tout à fait de mauvaise foi.
Non mais c'est vrai.
Parce qu'il faut défendre les souvenirs de son enfance, comme ça, avec ferveur. Et puis bien sûr, il y a la cuisine niçoise, c'est une cuisine extrêmement riche, c'est une cuisine de saveurs, mais c'est aussi une cuisine de saison. Le citron y était bien sûr présent, mais par exemple, il y avait les beignets de courgettes, c'était un truc, les beignets de courgettes, c'est exceptionnel et pas si facile à faire.
C'est très difficile, oui.
Donc il y avait les beignets de courgettes, il y avait les anchoyades. Dans mon enfance, le plat qui nous faisait rêver, enfin la récompense, c'était le pan bagna.
Ouais.
Alors si vous pouvez parler de pan bagna, c'est que vous avez vraiment grandi ici, parce que sinon personne ne sait de quoi. Ouais. Alors le pan bagna, c'était un gros pain rond, très particulier, qui avait un peu la forme du pain dont on sert pour les hamburgers, mais là aussi qui est mille fois meilleur. C'est-à-dire que le pain de hamburger, c'est de l'éponge à côté. Donc c'était un pain avec une vraie croûte.
Ouais.
Un gros pain rond qu'on ouvrait en deux, qu'on évidait, on badigeonnait ce qui restait de mie à l'huile d'olive, qu'on frottait un petit peu à l'ail, et à l'intérieur, on y mettait pratiquement toute une salade niçoise avant de le refermer et de le laisser imbiber, que le pain s'imbibe de l'huile d'olive.
Alors comment on passe du pan bagna au hamburger aux États-Unis, Marc Lévy ? Parce que vous avez dû en manger des hamburgers quand vous êtes arrivé là-bas.
D'abord, il peut y avoir de très bons hamburgers.
C'est vrai.
J'aime énormément la cuisine. J'ai un fils qui a deux restaurants de bistronomie à New York. Et j'ai toujours cuisiné. Et par exemple, dans les petites choses, vous voyez, qui me hérissent le poil, c'est quand je vais dans un restaurant, dans un mauvais restaurant ou dans une brasserie qui a marqué salade niçoise et qu'il vous amène une salade avec des haricots verts et des pommes de terre. On a juste envie de dire, mais enfin. Ouais, bon.
Il y en a à New York des salades niçoises ?
Oui, mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce qu'il y a de très bons restaurateurs français qui se sont exportés et qui ont exporté la cuisine française à l'étranger. Et quand on est quelque part ambassadeur de sa culture à l'étranger, on y fait attention.
Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui, Marc Lévy, pour conclure ? Qu'est-ce que vous aimez ?
Votre question, c'était
oui, bien sûr.
Comment on passe de la salle du pan bagna au hamburger ?
Ah,
c'est
oui,
ça, votre
oui,
question.
C'est vrai.
Que vous aviez oublié votre question aussi.
C'est vrai. C'est la séquence inattendue dans la librairie francophone. Alors allez-y, répondez à cette question, Marc.
Mais d'abord, comme pour toute chose, il ne faut pas mettre les choses dans des cases. Vous avez des très bons sandwichs, vous avez des sandwichs exceptionnels et vous avez des très mauvais sandwichs. Je faisais le parallèle avec la niçoise parce que la niçoise, c'est une salade extraordinaire et en même temps, ça peut être une salade épouvantable dans un mauvais bistrot. Le hamburger, c'est pareil. Il y a des très bons hamburgers. Je pourrais vous emmener à New York dans des restaurants où vous avez les larmes aux yeux en mangeant un hamburger tellement la viande est bonne, le pain est extraordinaire, la sauce qui l'accompagne est fabuleuse. Et ce qui compte, c'est la façon dont les choses sont faites. Vous voyez, vous savez quel est le meilleur test pour moi en cuisine pour voir si quelqu'un sait cuisiner ? C'est de lui demander de faire une omelette. Parce qu'une omelette, ça peut vous... une omelette réussie, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Mais on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut rater une omelette ? Oui, on peut. Et on peut en même temps faire une omelette qui est juste un moment d'extase absolue.
Bon, merci de nous avoir fait rêver comme ça ici à Nice, Marc Lévy, avec cette cuisine. Votre dernier roman, Le Crépuscule des Fauves, est paru chez Robert Laffont. La suite de C'est arrivé la nuit. Merci Marc, merci beaucoup.
Merci.
Nice, very nice, disent les wagons galets, en glissant le long de la promenade des Anglais. Nice, very nice, Nice.
Bonjour Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Bonjour Emmanuel.
Alors nous sommes sur un toit-terrasse qui domine la ville de Nice. On a face à nous la colline du château, l'opéra, le jardin Albert Ier un peu sur notre droite, toute la baie des Anges avec le tramway qui passe, là vous l'entendez peut-être, et puis des avions aussi qui atterrissent régulièrement. Nice, patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que ça vous inspire Jean-Marie ?
Je suis très heureux parce que cette ville a été menacée par les entrepreneurs et par les agents immobiliers. Et peut-être ça va freiner leur appétit un tout petit peu. Donc il y a de l'espoir.
Alors qu'est-ce que l'on voit là ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville ? Parce que ce qui est classé au final, c'est une partie de l'architecture, du paysage urbain aussi. Et il faut savoir qu'à Nice, il y a des façades de couleurs. Ces façades de couleurs, elles ont une signification en fonction des époques. Et elles sont elles aussi classées pour le coup.
Oui, là on a devant nous là l'essentiel de la ville de Nice qui a été construite après la destruction par les armées de Louis XIV de la citadelle. Elle a été construite sur une zone de marécage qui se trouvait au pied de la colline du château. Et droit devant moi, je vois la cathédrale qui s'appelle Sainte-Réparate, dans laquelle il y a un hôtel dédié à Sainte-Rita. Ma mère allait beaucoup voir Sainte-Rita.
Qu'est-ce que c'est Sainte-Rita ? Qu'est-ce qu'elle représente ?
Sainte Rita, c'est la sainte qui plaide pour les causes désespérées. Ouais. Et elle devait penser que mon frère et moi, on était des causes désespérées. Alors elle allait de temps en temps brûler un cierge.
Bon, on va s'asseoir Jean-Marie parce qu'on est en plein soleil. On va se mettre un petit peu à l'abri et on va parler d'autres souvenirs, les souvenirs culinaires. Parce que si Nice est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est évidemment en fonction de son architecture, on l'a dit, mais il y a aussi un patrimoine culturel, un patrimoine culinaire, la cuisine provençale comme on dit, la cuisine niçoise en particulier. Je sais que vous détestez l'oignon, ce qui tombe mal parce que la pissaladière, qui est une sorte de pizza à l'oignon pour caricaturer, c'est plus fin que ça quand même, c'est l'une des plus grande spécialité niçoise.
Oui, je ne suis pas fou de la pissaladière, mais enfin, grâce à Gemia, mon épouse, je me suis un peu apprivoisé à l'oignon, et l'oignon vient me manquer parfois. Mais la pissaladière, ça porte vraiment la mémoire de Nice, parce que à Nice régnait une aristocratie qu'on appelait l'aristocratie du pissala. Le pissala, c'est les anchois, en fait. On pratiquait la pêche aux anchois, qui aujourd'hui a disparu, l'anchois lui-même a disparu. Et on mettait sur une pâte de pain une couverture d'anchois parfumée un petit peu à l'oignon. Puis, quand l'anchois est devenu une substance vraiment hors de prix, on a remplacé peu à peu le pissala d'anchois par une oignonade, je ne sais pas si ça se dit.
Une compotée d'oignons, on peut dire. Oui,
qui est un petit peu un blasphème parce que ça ne devrait pas s'appeler pissaladière. Pissaladière, c'est la gloire du pissala.
Et c'est pour ça que la vraie recette de la pissaladière, les Niçois le disent, il faut faire un pissala et non pas une confiture ou une compotée d'oignons sur laquelle on rajoute des anchois. C'est plus élaboré que ça.
Oui, bravo Emmanuel, vous venez de donner la bonne recette. Alors je vous ai parlé de ce village où nous étions réfugiés, qui portait la trace de la culture niçoise. Et nous avons, mon frère et moi, un souvenir très ému des gnocchis à la pomme de terre, qui était vraiment une spécialité. C'est pas les gnocchis à la romaine, c'est les gnocchis du comté de Nice. Et comme il y avait les pommes de terre en dessous, il y avait une dame qui venait chercher les pommes de terre et en échange, pour être gentille avec nous, elle nous faisait des gnocchis à la pomme de terre. Donc ça, c'est mon premier souvenir de cuisine niçoise.
Alors c'est vrai que c'est très bon ça, si vous en trouvez. On en trouve maintenant des gnocchis à la pomme de terre avec une sauce au pistou dessus, c'est parfait.
Exactement, c'est parfait. Alors, je ne sais pas s'il y avait la sauce au pistou.
Un peu de basilic et de l'huile d'olive, hein, et puis quelques pignons de pain broyés, puis ça le fait, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, il y a des souvenirs comme ça de saveurs qui sont restés très importants dans ma mémoire.
Alors vous êtes mauricien aussi, hein, Jean-Marie Gustave Le Clézio, niçois et mauricien. Et je sais, puisqu'on m'a confié, puis on se connaît depuis quelque temps maintenant, que votre cuisine, c'est la cuisine mauricienne. Avant la cuisine niçoise, c'est ça que vous aimez. Ce sont les caries, tout ce qu'on trouve sur l'île Maurice ou encore sur l'île de la Réunion.
C'est assez amusant que vous en parliez parce que je dois me rendre à un festival à Maurice auquel j'espère vous allez assister un jour. Je serai content de vous voir là-bas. Et le festival, c'est en fait, c'est le prix Jean Fanchette. Et à cette occasion, quelqu'un m'a demandé d'écrire un texte sur l'île Maurice. Et j'ai écrit « Maurice on my mind », d'après la chanson de Ray Charles, « Georgia on my mind ». Et donc, dans ce texte, je parle des saveurs, de la cuisine, et je dis « Moi, je ne suis pas un enfant de la pomme de terre frite et des petits pois, je suis un enfant du riz et des breads ». Parce que dès que mon père est revenu, mais même à l'époque de mon grand-père, il a imposé le riz et les breads. Les breads, ce sont des cardes, des légumes assez bon marché qu'on fait cuire, on fait revenir avec un peu de tomate. C'est le fondement même de la cuisine. Le riz, une montagne de riz, et baignant ce riz, la sauce et les breads. Et puis les petits cailloux des lentilles. Voilà. Quand on a les trois couleurs, le vert des breads, le blanc du riz et le marron du curry, alors là on a la cuisine mauricienne.
Qu'est-ce que vous savez faire comme plat, Jean-Marie ? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller une petite recette là à faire facilement pour être dans l'ambiance des goûts de Jean-Marie Gustave Le Clézio, tiens ?
Alors je me hasarderais pas à faire de la soca ou même à faire des gnocchis parce que c'est très compliqué.
Très compliqué.
Mais je peux vous faire un bon curry, ça je peux vous faire. Il faut faire un roux avec j'appelle ça un roux, c'est pas un roux. Il faut faire revenir des oignons. Mais haché menu et pas trop d'oignons dans mon cas. Dans cette sauce à l'oignon que vous êtes en train de faire, vous cassez des tablettes de curry japonais. Parce que le curry japonais est particulièrement savoureux. Il est assez piquant, il est assez fort. Il est peut-être moins safrané, je ne sais pas. Il a un goût très particulier.
Pourquoi tablette ? Ça se fait en tablette ?
Oui, c'est comme une tablette de chocolat. Vous avez une tablette de curry. Vous en cassez 4 carreaux de curry. Vous les mettez dans la sauce, vous les faites fondre en ajoutant un peu d'eau. Et quand c'est bien délayé, alors là, vous mettez ce que vous voulez, des crevettes, du poisson, du poulet, du bœuf ou rien. Et vous faites parallèlement bouillir du riz. Alors moi, j'aimais bien la recette de mon père qui faisait du riz à l'africaine. C'est-à-dire qu'il faut être debout devant la casserole de riz. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, vous versez avec votre bouilloire un peu d'eau dans le riz. Et ça fait un riz hyper collant, donc le meilleur riz qui se puisse trouver. Et les breads, là on vient d'entendre le canon de midi.
C'est ça, exact, oui.
Et c'est un Anglais, un riche Anglais dont le nom m'échappe, qui a donné de l'argent à la ville de Nice pour que tous les midis, on tire le canon.
Parce qu'il
n'avait pas de montre, c'est pour cette raison.
C'est vrai, vous pensez ?
Oui, oui. Oui, il était énervé, il fallait qu'il demande l'heure aux gens. Là, au moins,
Alors, le curry, avec du riz collant, vous dites ? Alors qu'on s'évertue à faire du riz le moins collant possible, en tout cas en France, vous mangez le riz collant, le plus collant possible.
Oui, le riz qui ne colle pas, c'est un blasphème total. Le riz doit coller pour le... Qu'il soit bien collant, il faut le faire macérer dans l'eau auparavant, de façon à ce qu'il soit bien collant. C'est comme ça que je l'aime.
Très bien. Jean-Marie Gustave Le Clézio, vous avez publié « Le flot de la poésie continuera de couler ». Alors c'est un livre chez Philippe Ray où il est question de la poésie chinoise et asiatique aussi. C'est particulier avec beaucoup de thèmes. Et parmi les thèmes, il y a le vin. Et vous racontez que l'alcool ouvre un autre monde qui est proche de celui des dieux et des immortels. Et les Chinois avaient tendance à prôner l'ivresse par rapport à la sobriété.
Oui, comme tous les peuples assez raisonnables, on pourrait citer aussi les Grecs. Pour les Grecs, l'alcool, c'était un passage vers la divinité. Le dieu de l'alcool, Dionysos, mais chez les Romains qui est devenu Bacchus, c'était le dieu de l'ivresse, parce que l'ivresse permet d'accéder au domaine des dieux. Il n'y a pas de meilleur moyen. Et les dieux ne sont pas raisonnables, comme on sait.
Et le vin sert l'amitié, entretient l'amitié aussi. C'est ce qu'ils pensaient, ce qu'ils pensent toujours d'ailleurs.
Oui, et les Chinois en cela sont tout à fait exemplaires, parce que vous ne trouverez rarement, ça doit se trouver, mais c'est très rare de trouver un Chinois ivrogne tout seul. Les Chinois sont ivres comme tout le monde, mais alors ils sont ivres ensemble. Et quand vous allez à un dîner, vous passez l'essentiel du dîner debout avec un petit verre à la main dans lequel on vous verse régulièrement du vin de riz ou du vin de raisin, mais très très fort, un vin très très fort. Et on célèbre là l'amitié, la rencontre ou quoi que ce soit. On célèbre quelque chose, mais on est debout. Donc ça, c'est important d'être debout.
On va terminer avec un extrait d'un poème. Vous voulez bien nous le lire sur le vin, Jean-Marie Gustave Le Clézio, celui-ci, là?
Oui, c'est un poème de Li Bai. Li Bai, c'est le grand poète et le grand ivrogne de la Chine. Et on dit qu'il est mort parce que, pris de boisson, et il a vu le reflet de la lune dans un lac, il a voulu rejoindre la lune, et il s'est jeté dans le lac, il s'est noyé. Bon, c'est une légende, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, voici son poème. On a bien dit qu'un vin léger est un saint, et qu'un vin fort est un sage. Puisque j'ai bu le sage et le saint, à quoi sert-il encore de chercher les immortels? Trois coupes et je maîtrise le Tao. Une jarre pleine et je ne fais qu'un avec la nature. Quand on saisit l'esprit de la boisson, à quoi bon l'expliquer à celui qui est sobre? Voilà, voilà. Le poème de Li Bai, c'est très fort.
La poésie chinoise face au panorama de Nice, classé donc désormais patrimoine mondial de l'UNESCO, et la mer qui est juste devant nous. Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Merci Emmanuel, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Vous faites surgir des visions, des fantômes et aussi des souvenirs.
Plaisir partagé, c'est une nouvelle escale, on en aura d'autres avec vous. Hein. On essaye comme ça de parcourir le monde, de raconter nos souvenirs, plein de choses ensemble. Donc prochain épisode bientôt, hein, Jean-Marie.
Je l'espère, peut-être en Bretagne ce serait bien. Ça me plairait bien.
On y pense. Merci Jean-Marie, à bientôt.
À bientôt Emmanuel.
Et le dernier ouvrage de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Le flot de la poésie continuera de couler, est paru chez Philippe Ray et son roman Alma sortira le 7 octobre en livre de poche. À noter aussi que Marc Lévy a sorti une BD palpitante, L'Agence des Invisibles, est sortie chez Versilio. C'est son premier scénario original pour une bande dessinée et c'est plutôt réussi. Le nouveau roman d'Agnès de Sarthe est en lice pour le prix Goncourt. Elle est en plateau avec nous. On la retrouve juste après, la chanteuse Alexia Grédy.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo. Je suis passée par le banc là où patiente, jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
C'était Alexia Grédy avec Vertigo dans la librairie francophone. Avant de retrouver Agnès de Sarthe, on va donner la parole à Déborah Damblon en Belgique avec un hommage. On a appris jeudi le décès de l'auteur belge Francis Danemark. Déborah.
Oui, Emmanuel. Francis Danemark vient de décéder et il était vraiment, vraiment trop jeune pour partir. Alors on est nombreux à avoir le cœur en peine. Francis, c'était un auteur talentueux, c'était un romancier et un poète plein de sensibilité. C'était un éditeur attentif et pointu. Et puis c'était un homme bon et c'était un ami précieux. Et il va nous manquer au-delà de ce que les mots peuvent dire. Alors, heureusement, ses textes ne nous quittent pas. Alors, relisons-les, pensons à lui et adieu l'ami et fais bon voyage.
Ouais, et il avait édité pas mal d'auteurs, hein. On lui doit des révélations, Xavier Deutsch par exemple,
beaucoup.
Avec plein d'autres. Ouais. Voilà, il va beaucoup nous manquer, il est parti très jeune, trop jeune, Francis Danemark. Merci pour cet hommage, Déborah.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Agnès de Sarthe est avec nous. Rebonjour Agnès. Vous publiez L'éternel fiancé aux éditions de l'Olivier, un livre sélectionné pour le prix Goncourt et donc en lice aussi pour le prix Goncourt des lycéens. Vous abordez de nombreux thèmes de la vie très profonds comme la réussite amoureuse, les limites de l'amour, notre regard porté sur le passé. Vous vous êtes déjà assis sur un banc pour regarder en arrière, pour réfléchir au passé comme dans votre livre?
Je ne crois pas l'avoir fait consciemment, mais c'est une activité que je pratique, mais presque malgré moi.
Ouais.
Bien souvent, quand je retourne sur des lieux de mon enfance, les souvenirs affluent et j'ai l'impression que les souvenirs continuent d'exister. Je regarde. Alors, mon école maternelle a été détruite malheureusement il n'y a pas très longtemps, mais à chaque fois que je passais devant, je revoyais des gens de 5, de 4 ans, je me revoyais moi-même et c'était des présences qui étaient incroyablement fortes.
Alors votre histoire commence au début de la vie de deux enfants. Ils ont 4 ans et ils ne portent pas le même regard l'un sur l'autre justement. Ça commence comme ça l'histoire.
Bah oui, ça commence par une histoire d'amour non partagée, en tout cas pas dans les mots, puisque une petite fille qui sera la narratrice de tout le roman va au concert et le petit garçon qui est devant elle se retourne et lui dit qu'il l'aime et elle lui répond qu'elle l'aime pas. Donc ça commence
à cause de ses cheveux.
Oui, qui sont de travers. Parfois, à 4 ans, vous savez, c'est un petit détail comme ça.
Et lui, ce qu'il aime chez elle, c'est ses yeux ronds.
Oui, oui. L'amour aussi. Voilà, l'amour comme la détestation chez les enfants peut venir de choses qui nous paraissent à nous très superficielles.
Bon, en tout cas, ils vont se croiser toute leur vie. La narratrice va courir après Étienne, va même passer par son frère Martin pour l'atteindre. Elle va y penser, même mariée à un autre. Pourquoi court-elle après lui à ce point-là?
Mais elle court pas vraiment, en fait. C'est le hasard qui le remet sur sa route, puisqu'elle va effectivement le rencontrer à l'adolescence, puis à l'âge adulte, puis encore un peu plus tard.
Elle cherche un peu quand même.
C'est un mélange de coïncidences. C'est aussi parce qu'elle le reconnaît. Donc peut-être qu'elle le cherche mentalement, puisqu'à chaque fois qu'il apparaît, elle le reconnaît, alors que lui ne la reconnaît jamais. Et d'une certaine manière, on a l'impression que le poids d'un refus est plus lourd à porter que le poids d'un amour.
Elle a pris des chemins de traverse, en fait. Une direction par défaut?
C'est ce qui peut apparaître dans le roman à certains endroits, mais parfois non. Parfois, quand elle rencontre son mari, par exemple, c'est une vraie. Elle est très attirée par lui. Elle le trouve fantastique, ce mari. Et c'est pas du tout un choix par défaut. Elle tombe vraiment amoureuse.
Elle aurait préféré Étienne quand même.
Mais c'est pas sûr.
Mais
ça,
si.
C'est vous, parce que vous. C'est parce que vous identifiez à Étienne. Parce que êtes Emmanuel, l'éternel fiancé de je ne sais pas qui. Mais en tout cas, voilà, il y a des révélations qui se font aujourd'hui, je crois.
Bah, allez-y.
Oui, non, mais bon, j'irai pas plus loin. Je ne donne pas de nom, mais.
Quel nom?
Je ne sais pas, les personnes concernées comprendront.
Vous n'êtes pas romancière pour rien, vous. Hein. Bon, en tout cas, elle est passionnée de musique, hein, musique classique depuis l'enfance. Elle va décider de changer de vie à un moment, de reprendre son violon après 8 ans de mariage et de carrière d'avocat fiscaliste. Elle dira « Je renoue avec le passé, j'en saisis tous les fils, je vais rebroder ma vie avec les couleurs qui m'ont manqué. » C'est joli, ça.
Bah, j'espère que c'est joli. En tout cas, j'ai essayé que ce soit joli.
C'est un moment de bascule dans sa vie,
Oui, et ben ça prend un moment parce qu'en fait, en sortant de la mairie où elle vient de se marier avec son mari, avec qui elle a déjà eu deux enfants, mais enfin, ils se marient, et elle lui dit qu'elle va, il lui demande si elle va changer de nom, comme on le fait parfois quand on se marie. Elle lui dit non, mais je vais changer de vie. Parce que ça peut être un peu terrifiant pour quand on vient de se marier, c'est-à-dire. Mais en fait, elle prend la décision d'arrêter d'être une avocate fiscaliste et de retourner vers ses premières amours, la musique. Mais ça prend 8 ans. Comme parfois les décisions. On prend une décision et puis tout ce qu'il faut mettre en route pour cela n'est pas forcément rapide. Le livre est beaucoup une exploration du temps, ce temps qui parfois semble interminable et qui à d'autres moments on dit je vais changer de vie et puis 8 ans plus tard on l'a toujours pas fait.
C'est vrai.
Voilà.
Et on attend souvent très longtemps, mais ces moments de bascule, on s'en rend pas toujours compte. Il y a des moments où on fait des choses dans la vie. Il y a Étienne, on va pas tout raconter non plus, hein, parce qu'il y a plein de choses dans ce livre Agnès, mais Étienne va faire plaisir à de vieilles dames, par exemple, pour oublier ses douleurs. Alors plaisir, quoi.
Ouais. Il est prêt à beaucoup de choses pour.
Il va se prostituer.
Il est prêt à beaucoup de choses pour faire jouir des femmes qui sont pas forcément très vieilles, mais qui en tout cas sont bien contentes de faire appel à ses services parce que c'est un amant exceptionnel, grâce à sa qualité d'écoute, son regard et aussi sa une forme de générosité extraordinaire qui naît de son propre chagrin, ce qui n'est pas tout à fait habituel, parce qu'on pourrait imaginer d'un gigolo, par exemple.
En tout cas, vous pointez les limites de l'amour, Agnès de Sarthe. Même entre parents et enfants, à un moment, il y a des zones d'ombre. Ouais. Il y a le père de la narratrice qui dira « On ne connaît ses parents qu'entre 0 et 10 ans. » Et réciproquement. Ensuite, on se perd de vue, c'est dans l'ordre des choses.
Oui.
C'est étonnant, ça.
Oui, c'est dans une scène de face à face qui est entre le père et sa fille. Oui, c'est quelque chose qui me frappe, la façon qu'on a quand on est enfant, il n'y a que nos parents qui existent quand ça se passe bien. Et ils sont le monde. Et puis, à un moment, à l'adolescence, on voudrait qu'ils disparaissent, carrément. Enfin, c'est-à-dire que c'est carrément le contraire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On n'est plus des enfants. Donc, à quoi ça sert un parent? Quand ses enfants ne sont plus des enfants, comment est-ce qu'on réinvente cette relation? Bah, le père, lui, carrément, il dit que c'est comme ça, on se perd de vue, et puis c'est comme ça, c'est tout.
Et c'est réciproque.
Et c'est normal. Oui.
Bon, allez, on va voir du côté des libraires s'ils ont aimé, si elles ont aimé votre livre, Agnès de Sarthe, je suis pas sûr. La Belgique, la Suisse et le Canada. On va commencer par la Belgique, Déborah Damblon.
Moi, j'ai trouvé ce roman beau, hein. Mais beau, comme les vieux manèges de chevaux de bois, ou comme les paquets de bonbons acidulés avec des papiers brillants de toutes les couleurs. Et j'aime votre regard pétillant et gentiment moqueur sur vos personnages. Et j'aime votre récit parce qu'il est poétique, parce qu'il est fantasque, il est foisonnant, il est doux, il est fort. Je peux continuer comme ça pendant très longtemps.
J'ai l'impression,
Emmanuel.
On va s'arrêter un moment quand même.
Non. Et j'aime vos livres, Madame de Sarthe, mais vraiment, vraiment profondément, et celui-ci en particulier. Il est délicieux, comme la vie, quand on a décidé de la prendre du bon côté. Pour moi, c'est un de ces livres qui nous aide à rester debout.
Bien, allez, merci le beaucoup, Canada, hein. Josiane Etourneau, je suis sûr que vous êtes dans le même sens. Je ne sais pas pourquoi, je le sens.
Oh. J'écoutais la fin du commentaire de Déborah et puis je rejoins complètement ce qu'elle dit, Agnès de Sarthe. Vous avez réussi, je trouve, à aborder le thème de la construction de soi qui est si riche, avec la dose d'attendrissement et d'humanité qu'il fallait. Vous l'avez fait d'un ton et d'une écriture qui savent raconter, voire dédramatiser la marginalité, la pauvreté, en teintant le pathétique d'humour, d'amour et de musique. Une musique que vous invoquez constamment et heureusement dans la vie de vos personnages. J'ai envie de vous dire merci pour cette histoire émouvante, pleine de saveurs et de vie.
Merci.
Eh ben, c'est trop, hein, non?
Ah ben, c'est émouvant, hein. Oui. Oui.
On va avec la Suisse dans un instant. La musique classique, effectivement, Agnès, qui semble être, selon vous, la seule musique intemporelle. Celle qui n'est pas ancrée dans notre époque et donc dans notre mémoire.
Oui, alors... Dans notre mémoire, elle est indémodable puisqu'elle n'est pas à la mode.
C'est ça,
on a remarqué. Mais dans la mémoire, oui, parce qu'en fait, il suffit qu'une note, même si on n'est pas musicien, même si on n'est pas mélomane, une musique qu'on a entendue et qui nous a touchés, on la reconnaît et elle peut faire ressurgir des tas d'images qui étaient enfermés dans une crypte dont on avait l'impression que personne n'avait la clé. Donc c'est des émotions qui sont très fortes, les émotions, je trouve, amenées par la musique. Après, classique dans mon cas, mais ça peut être...
Mais classique, c'est plus facile, parce qu'elle n'est pas ancrée dans une mémoire collective.
Voilà.
Elle n'est pas raccrochée à une époque.
Oui. C'est sûr
En tout cas, à l'époque, on l'a pas connue.
Voilà, et puis...
c'est ça.
Ouais. Oui, oui, si vous voulez, ouais. C'est ça. Oui, ouais. C'est intemporel dans ce sens-là, oui.
On entend de l'euphonium.
Oui.
Vous parlez de cet instrument magnifique. Écoutez, oui. L'euphonium, tiens.
C'est rare d'entendre de l'euphonium.
Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a mis.
Mais oui, beaucoup de gens ne connaissent pas cet instrument. C'est un instrument, et puis en plus là, il joue en soliste, alors que c'est un instrument qu'on entend dans les fanfares, qu'on entend des orchestres d'harmonie, qu'on entend dans des orchestres, mais qui n'est pas au premier plan. Et c'est vrai que un des personnages importants du livre, Antonia, joue de l'euphonium dans l'orchestre du lycée. Et parce qu'il y a une grande partie du livre qui est dévolue à l'adolescence et aux premières amours et
c'est tout ça, la vie des personnages, hein, l'enfance,
oui.
L'adolescence, la vie adulte.
Mais il y a aussi aussi l'adolescence.
Allez, la Suisse, on y va avec Claire Renaud. Claire.
Oui, excusez-moi juste la question. C'est Saint-Saëns, la musique.
Oui, c'est ça, exactement. Bravo.
Ah, ok.
Bravo. Ouais. Votre commentaire peut-être sur Agnès,
oui.
Ou non?
Oui, oui. Il n'y a pas grand-chose à rajouter après mes consoeurs, mais moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est votre regard particulièrement lucide que vous avez sur l'amour, les vies qu'on s'invente ou pas, d'ailleurs, sans jamais nous ennuyer ou nous plomber. Et j'ai trouvé que votre livre est touchant, sensible et puis universel. Et votre écriture est entraînante comme une mélodie, justement. Donc, comme vous l'aurez compris, je le recommande ardemment.
Voilà,
et j'espère peut-être que vous aurez le Goncourt.
Bah voyons, bon, allez-y.
Bah, pourquoi pas.
Allons-y, lâchons-nous, Claire. Bon, félicitations Agnès.
Bah, merci beaucoup Emmanuel, c'est très réconfortant. Hein. Faut pas croire qu'on trouve ça normal quand on écrit un livre. On doute pendant qu'on le fait, on doute après, on doute tout le temps. Et même une fois qu'on a reçu certains éloges, ce livre est très bien accueilli. C'est étrange comme ça crée une blessure qui se ferme pas. Donc je remercie beaucoup les libraires et je vous remercie aussi pour cet accueil.
Alors je vais lire un extrait pour conclure, parce que vous questionnez la vie avec beaucoup de finesse, Agnès de Sarthe. Vers la fin du livre, vous écrivez « Comment savoir si nous sommes vraiment présents sur Terre ? Comment être sûr que nous ne sommes pas le rêve d'un autre ? Nous ne savons rien, nous ne sommes pas sûrs. Nous pensons, nous nous souvenons, et cela forme une vapeur. » Une vapeur invisible. Celui qui prétend l'avoir vu est un menteur. Nos rêves, nos pensées, nos souvenirs, voilà la matière de l'âme.
Alors, il faut dire que ces paroles sortent de la bouche d'un rabbin un enterrement. Donc, c'est particulier. Il n'y a pas cette espèce de lyrisme, ne parcourt pas tout le livre,
mais
il est parfois
quand même, hein.
Il est parfois présent. La narratrice a cet autre personnage dans sa vie qui est Étienne. Et quel rôle il a ? À quoi ça sert d'avoir des gens comme ça, avec qui on n'a pas forcément de relation, mais qui sont là, qui sont présents. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Qu'est-ce que vous en avez fait, vous de
J'en ai fait un livre.
Oui. Ils se reconnaîtront, hein. On ne va pas donner de nom, mais...
Bah, d'accord.
Merci Agnès de Sarthe.
Merci Emmanuel.
Beaucoup. L'éternel fiancé est paru aux éditions de l'Olivier, vous l'avez compris, avec Claire, hein, qui a pris position. Il est en lice pour le prix Goncourt. À bientôt Agnès.
À bientôt Emmanuel.
Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec l'extrait d'une nouveauté originaire de La Réunion. Voici la chanteuse Kaloun. C'était le son de La Réunion avec Kaloumena, de la réunionnaise Kaloun. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Adèle Caglar. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, Tonino Benacquista et Nicolas Barral pour une BD sur Dieu et la Suissesse Rebecca Gisler. Bon week-end, bonne semaine à tous. À bientôt.